les 9h, direction le jardin en compagnie d'Isabelle Donignad et Laetitia Agostini.
Cette petite musique, elle vous rappelle que c'est samedi et que vous avez au moins 2 jours pour prendre soin de votre jardin. Tiens, on a Gérard qui sur Messenger nous fait profiter à travers une petite vidéo d'un moment de plaisir à la campagne avec une vue sur un arbre en fleurs sublime. Laetitia Agostini à nos micros, c'est tous les samedis de 9h à 10h que vous pouvez poser vos questions soit sur notre page Facebook France Bleu RCFM, rubrique Messenger et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte en particulier, c'est une page qui est ouverte, soit auprès de Julie Nigol qui vous accueille ce matin au 04 95 32 2222. Et ça c'est chouette parce qu'on a été en carafe la semaine dernière et notre standard est réparé depuis jeudi après-midi. C'est un vrai bonheur d'entendre vos voix au 04 95 32 22 22. Coucou Letty, quoi de neuf cette semaine ?
Ben, y a le printemps qui s'est vraiment installé, donc je pense qu'il est vraiment temps de se mettre au jardin. Et puis de toute manière, avec ce beau temps, ça donne envie hein, de s'y mettre.
C'est vrai que là, on a envie, on a été un petit peu arrosé et ça, c'était plutôt pas mal. Donc le sol, tout est en train de pousser, hein, la végétation explose. Hein.
Oui, je pense que les tondeuses vont être de sortie ce week-end.
Ah, il y a des chances, parce que c'est vrai que l'herbe a bien poussé, et puis pas que.
Donc, au programme tondeuse barbecue.
Oui, c'est un petit peu ça. Alors, on a une première photo d'un pachyra qui a des problèmes, effectivement, puisque le bout de ses feuilles est jauni. Donc, c'est jaune au milieu de la feuille, puis carrément ocre, ça tire vers le marron, comme si c'était tout sec, et c'est Marie qui s'en inquiète. À votre avis, quel est le problème de ce pachyra ?
Alors, je pense que c'est plus un problème d'arrosage que de sécheresse. Mm-hmm. Je pense qu'il est probablement en pot.
Oui, il est en pot. Il est en pot. On le voit sur une petite table en verre.
Donc là, il faut qu'elle le rempote et qu'elle fasse très attention à être régulière dans l'arrosage, mais pas trop l'arroser. Je pense que bien souvent, quand on voit les feuilles qui jaunissent, on a tendance à accélérer les fréquences d'arrosage. Or, c'est pire. Donc là, il faut qu'elle le rempote, qu'elle lui mette un terreau qui soit assez drainant pour pouvoir lui redonner du souffle. Et les feuilles qui ont jauni, elles resteront jaunes. Mais les autres éviteront de jaunir ainsi.
Alors effectivement, le mauvais réflexe, entre guillemets, on analyse un jaunissement alors qu'on a déjà eu la main lourde sur l'eau comme étant le fruit de la sécheresse. On bombarde un pot qui souffre hein, encore plus. Donc là, un substrat léger, c'est quelque chose de moins compact peut-être, qui va permettre effectivement à l'eau de s'évacuer. Et puis, c'est quoi la fréquence d'arrosage correct pour un pachyra ?
Alors, il faut maintenir le substrat tout le temps humide. Mais ne pas arroser avec excès. C'est-à-dire que suivant la taille du pot, on va arroser une fois par semaine, mais on n'attend pas que l'eau est complètement traversée, on maintient le substrat humide sans excès, quoi.
Ok. Voilà Marie pour les conseils. Si vous pensez avoir été cette auditrice qui hésitait et qui renforçait ses arrosages, peut-être avez-vous, sans le vouloir, malmené un petit peu votre plante. Mais tout est réparable. Changez-le de pot avec un terreau plus léger et réduisez le rythme des arrosages.
Bottes aux pieds et bêche à la main, on vous attend sur RCFM.
Dora, sur Messenger également. Bonjour, mon pondora a des feuilles très pâles, voire jaunies. Il est en pot plein sud sur les hauteurs d'Ajaccio. Que faire ?
Alors, je pense que les feuilles qui ont tendance à pas être un beau vert intense et autres, tant que c'est pas toute la feuille qui jaunit et qui tire sur le ocre, le marron, c'est plus un problème d'alimentation. Et effectivement, toutes ces plantes un petit peu tropicales que l'on a tendance à avoir en pot, elles nécessitent quand même pas mal d'apport de minéraux. Donc, ce que je lui conseille, c'est une fois par semaine d'acheter de l'engrais pour plantes d'intérieur et de le dissoudre dans l'eau d'arrosage et d'arroser avec. Et le feuillage, de suite, va redevenir un vert plus soutenu, un vert meilleure santé, je dirais.
Eh oui, c'est vrai que quand on les voit un petit peu jaunir, ces feuilles, on s'en inquiète à juste titre, hein.
Voilà, pâle, on se dit, elle est verte, mais elle n'est pas un vert...
franc, intense.
Franc, voilà. C'est pas le vert de la plante en pleine forme. Donc, on n'hésite pas. De l'engrais liquide dans l'eau d'arrosage une fois par semaine, ça ne fait jamais de mal et ça peut aider la plante à mieux supporter ces conditions. Parce qu'il faut voir quand même que, bon, même en pleine terre, les plantes, elles ont besoin qu'on leur apporte des minéraux parce qu'au bout d'un moment, leurs racines explorent qu'un certain volume de terre. Mais dans le sol, en pot, je veux dire, il n'y a pas de mouvement de minéraux.
Eh oui.
Donc, rapidement, la plante, elle a absorbé tout ce qu'elle avait et il n'y a pas de circulation d'eau qui peut transférer des minéraux d'un point A à un point B, quoi.
Oui, donc si on ne fait pas un apport artificiel, on a tendance à épuiser le sol, quoi. Enfin,
la terre. Et puis, on a tendance aussi, la plante va bien, on la laisse dans son pot, ben, il est bien, le pot, il est adapté, ma plante, elle a l'air bien. Mais au bout d'un moment, le terreau est épuisé. L'autre jour, je rempotais, je ne sais plus quelle plante à la maison. Et je me disais, ça ne va pas trop. Ah ben oui, j'ai réalisé que oui, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas rempoté. Et quand j'ai dépoté, ben, toutes les racines avaient envahi tout le volume.
Ah ouais, elles étaient à l'étroit.
Et c'était comme du sable, ça ne tenait plus, quoi.
C'est ça, il n'y avait plus rien à manger.
Voilà, quand c'est du sable, elles n'ont pas encore des dents qui concassent les cailloux pour extraire les minéraux, nos plantes.
Bon, et vous voyez, en plus, elle nous décomplexe, Laetitia, parce que si ça lui arrive même à elle, nous, on est complètement pardonnés.
On voit pas le temps passer.
Bonjour Diane, comment allez-vous?
Ça va très très bien.
Vous êtes à Lecce?
Je viens d'arriver, donc je vais peut-être poser une question que quelqu'un d'autre a déjà posée.
Allez-y.
Bon, alors, j'ai deux choses. La première chose, c'est un citronnier qui est dans un pot, justement. Et avant de partir, donc fin novembre, en décembre, j'ai mis du compost, parce que j'ai fait mon compost. Et puis, en arrivant, je le trouve plein de fleurs, en pleine forme, mais il est dans un pot. Et en revanche, il y a des petites fourmis qui grimpent et puis des petites boules blanches qui se forment sur les branches.
Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est les fourmis et les boules blanches. Les fourmis, il faut voir si elles viennent du pot, parce que bien souvent, si notre plante est installée dans un pot en terre, il fait bon, il fait chaud dans le pot, et pour les fourmis, c'est royal. Donc à ce moment-là, il faut rempoter, essayer de sortir les fourmis. On peut mettre de la terre de diatomée à la surface du pot pour empêcher les fourmis de passer. Par contre, à chaque fois qu'on va arroser, la terre de diatomée va avoir tendance à se compacter, donc elle ne jouera plus son rôle de répulsif. Et ensuite, les boules blanches, je vois pas trop. Des boules blanches, comment? C'est plutôt des insectes? C'est quoi?
C'est des toutes petites boules. Alors là, j'en ai sorti une. Quand je l'écrase dans mes doigts, c'est jaune à l'intérieur. Orangé.
Ah ben c'est des cochenilles. En fait, c'est des cochenilles tout simplement que vous avez. Ce que vous écrasez dedans, c'est l'intérieur de la cochenille et puis ces petits œufs. Donc vous allez faire un traitement avec du savon noir. S'il y en a pas encore énormément, ce que je vous conseillerais aussi, c'est essayer de les enlever avec les doigts, tout simplement.
Oui, c'est ce que je fais. Oui.
Alors si ça vous plaît pas trop de toucher ces boules avec les doigts, vous prenez des gants. Et après, on fait un traitement au savon noir. Ça permettra de décoller un petit peu ces cochenilles.
D'accord. Et ça n'abîme pas les branches, le savon noir?
Et si on les laisse, oui, ça va abîmer les branches. Parce qu'en fait, la cochenille va avoir tendance à pomper la sève aux endroits où elle se fixe.
Ce sont les cochenilles qui vont user l'arbre, pas le savon noir. Je crois que c'est ça la question.
Voilà. Ça ne l'étouffe pas, le savon noir?
Ah non, le savon noir, ça lui fait rien du tout. Ah, mais
super.
Par contre, ça étouffe les cochenilles.
D'accord. Bon, très bien. J'ai une deuxième question. J'avais planté avec mon petit-fils, il y a 5 ou 6 ans,
un noyau de néflier.
Néflier, voilà. Et maintenant, il a des feuilles, alors un beau vert magnifique. Un petit peu mangé quand même. Il y a des trous dans les... Il y a quelqu'un qui se régale des feuilles du haut. Il y a des petits trous. Mais sinon, il est superbe. Mais il mesure, comme moi, 1,70 m à peu près. Mais il ne donne pas un fruit.
Alors, le néflier, je pense pas que ce soit greffé. Mais c'est toujours le problème de la pollinisation, du semis. En fait, on sème un noyau, mais on n'est jamais sûr d'obtenir la même chose. Que ce soit quand on récupère des tomates ou autres, on les ressème après. Mais on n'est pas sûr d'obtenir nos grosses tomates rouges. Parfois, on obtient des petites tomates jaunes ou autres. Donc, 5-6 ans, c'est pas très vieux pour un arbre issu de semis. Moi, je lui laisserai encore un an ou deux. Et puis après, sinon, il va falloir soit vous le gardez comme plante verte, soit il va falloir sortir les grands remèdes, c'est-à-dire l'éliminer. Voilà. S'il ne fait pas de fruits, on n'aura pas trop d'autres solutions. Après, peut-être qu'on peut le greffer avec un effilier qui produit, mais... si vous voulez, je me renseigne et je vous dis ça la semaine prochaine.
Super. Voilà. D'accord. Ou alors en planter un autre, à côté, non ?
Eh bien, s'il fait pas
un bon.
Il ne fait pas de fleurs ou il ne fait pas de fruits ?
Non, rien, ni fleurs, ni fruits.
Donc, même si vous en plantez un autre, s'il ne fait pas de fleurs, on n'aura jamais de fruits, quoi, parce qu'à la base, il faut des fleurs.
Ah oui, bien sûr. Bon. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions.
À bientôt. Au revoir, Diane.
Au revoir.
Bon courage.
Au revoir.
De 9h à 10h sur RCFM, c'est le moment de jardiner.
Avec Laetitia et Gilles à Solacaro qui voudrait que son péché ait des feuilles un peu moins ternes. Bonjour, Gilles.
Bonjour, bonjour à tous.
On vous écoute.
Bonjour.
Donc, oui, j'ai un petit verger, je dirais. J'ai une quinzaine d'arbres fruitiers qui ont entre 4 et 5 ans, à peu près 1,80 m. Et parmi eux, j'ai un pêcher jaune qui a été un peu, enfin, pour moi, qui a été un peu précoce en floraison parce qu'il a fleuri près de le mois dernier, sans exagération. Il a fait une fleur rose dessus. Elles sont toutes tombées naturellement. Et aujourd'hui, j'ai des feuilles qui sont recroquevillées. En fait, elles n'ont pas le vert intense. Elles sont presque vers le marron, mais pas. Elles sont pas perforées. Et elles sont toutes cloquées.
Elles sont pas un peu rougies, non?
Cloquées.
Voilà.
Nous dit Gilles.
Elles sont ocre. Voilà.
Et voilà. Vous avez tout simplement la cloque du péché qui s'est installée.
Avamose.
Donc mise. Voilà, des feuilles cloquées, la cloque du péché, ça se ressemble hein, quand même. Et alors pour la cloque, on peut la prévenir avec des traitements à la bouillie bordelaise. Après, pour la soigner, il y a
pour la soigner quoi, pardon, Laetitia ?
Mais
il n'y
a pas vraiment de solution.
Il n'y a pas vraiment de solution. C'est un traitement qu'on renouvelle toutes les 2 à 3 semaines, la bouillie bordelaise ?
Oui, mais en fait, si vous voulez, la bouillie bordelaise, on va commencer à la faire quasiment à la floraison pour éviter les attaques de cloque. Parce que la cloque du péché est causée par un champignon. Et une fois que le champignon est là, ben, on n'a plus trop de solution. Donc moi, oui, vous pourriez faire un traitement, mais attention, parce que quand on traite avec du cuivre, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que sinon le cuivre peut être toxique. Brûler la feuille. Franchement, la cloque disparaît seule avec les premières chaleurs. Donc, je pense que.
Donc, soit on la traite en prévention, en fait, soit quand elle est installée, on n'a plus qu'à attendre.
Voilà.
Laetitia, étant donné que vous avez la voix de Robocop, je me demande si vous n'avez pas un petit peu bougé.
Pardon. Absolument pas, mais voilà, c'est un peu compliqué de capter ce matin.
Ouais, je vois ça, le réseau n'est pas top top. Vous aviez une autre question, Gilles, pour Laetitia ?
Oui, s'il vous plaît, oui, rapidement. Au niveau de l'intensité des arrosages pour les arbres qui ont 4 ans, comme ça, c'est là, en cette saison, hein, je dis bien, avec des températures qui varient, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose, il faut arroser plus, il faut arroser moins, il n'y a rien de spécial, quoi, je veux dire.
Alors, moi, j'aurais tendance à dire, pour l'instant, on n'arrose absolument pas.
Ah ouais ?
D'accord. Ah ouais, ça c'est, ouais.
Ouais, je suis très radicale. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance de voir, alors à Solacaro, je ne sais pas combien il est tombé, mais nous, là, en pleine de Bastia, il est tombé une 15aine de millimètres. Ça a permis de recharger un petit peu les différentes couches du sol. Et là, on est en pleine poussée des racines. Donc, en fait, nos racines, elles vont aller chercher l'eau en profondeur. Et moins on arrose, plus on les force.
Plus elles vont faire ce travail. Ouais, d'accord.
Voilà.
Et du coup, elles vont se développer pour aller capter des nappes phréatiques. Et quand on sera plus sec, elles seront plus résistantes. C'est ça ? l'idée.
Voilà. Donc, tant qu'on ne voit pas...
Ouais. Non, je disais, même quand on a fait un apport, il ne faut pas arroser, du coup, Laetitia ?
Si on a fait un apport d'engrais ou autre, on peut légèrement arroser, mais là, à l'heure actuelle...
On les laisse plonger dans le sol, en profondeur, ces racines.
Voilà.
Okay.
Après, on voit... Là, j'ai vu des agrumes qui avaient les feuilles, qui avaient, avant la pluie qu'on a eue, là, en début de semaine, ils avaient tendance à avoir les feuilles qui s'enroulaient un petit peu. Donc là, c'est vraiment un signe que l'arbre a soif. Donc, on lui fait un léger apport. En cette saison, on a plutôt tendance à forcer les arbres à descendre, puiser l'eau, pour que quand on va avoir les
vraies sécheresses
estivales, quand on fasse des apports, elles aient déjà des racines en profondeur qui profitent de l'eau qui va entrer au fond du sol.
Ok. Ouais. Ok, ok. Merci pour ce conseil-là. Gilles, c'est bon pour vous ou vous aviez...
Écoutez, c'est bon. C'est bon.
Ça marche.
Un petit conseil qu'on m'a donné, je voudrais savoir si... C'est une personne d'un certain âge et je respecte beaucoup, mais j'aurais voulu savoir si on peut appliquer ça. Sur les arbres fruitiers, en début de saison, quand on a ces fourmis là qui grimpent le long des troncs, là, le gars m'a dit de faire une bande autour du tronc de à peu près 2 cm de large de graisse mécanique.
Ah,
sur
oui.
Le tronc. Alors, je l'ai fait, figurez-vous que je l'ai fait. Et j'étais abasourdi parce que je continuais à voir les fourmis monter et je ne comprenais pas pourquoi. Alors je vous assure que c'est un truc de fou. Les fourmis sont montées sur la graisse, il y en a 2 ou 3 qui se sont sacrifiées et les autres chevauchaient.
Pour faire un pont et qu'elles...
Exactement.
Deux petites choses, Gilles. La première, c'est que ça fonctionne bien, Letty la recommande souvent, mais pas à même le tronc, hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, la graisse mécanique peut être toxique pour le végétal. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on bande le tronc et ensuite, par-dessus, on met un chiffon que l'on aura imbibé de graisse. Mais bon, même si maintenant, elle se sacrifie même dans la graisse... voilà quoi. Avant, elle se sacrifiait sur les blancs d'anguliers. Elle faisait des ponts avec... Moi, j'ai vu des vergers où elle mettait de la terre sur les bancs d'anguliers pour faire un passage. Avant, la graisse, moi, c'était un ancien qui m'avait donné ce conseil. Et ça marchait, quoi.
Il faut peut-être le renouveler, mais beaucoup. Parce que c'est vrai que... Je ne sais pas à quelle fréquence elles arrivent à faire pont. Mais bon, peut-être qu'il faut, mettre des bancs plus...
C'est impressionnant l'intelligence.
C'est sûr qu'elle nous bouffe, hein, dans tous les sens du terme.
Regardez, elles arrivent sur le continent, elles arrivent à aller dans les villages.
C'est la folie, hein, c'est la folie. Renouveler, et par contre, voilà, sous un tissu, Gilles, hein, ça c'est important.
Sous un tissu.
Ouais, pour pas que le tronc ne soit abîmé.
Le fait de mettre le tissu sur le tronc, ça ne va pas étouffer plus ou moins le... Bon, d'accord.
Non, c'est la graisse qui lui fait...
Non. Franchement, moi, je mettrais de la bande. Vous savez, les bandages que l'on utilise pour nous. Parce que c'est
un peu stretch.
Voilà, un peu aéré. Et puis, voilà, c'est stretch et aéré.
Et aéré,
voilà.
Mais par contre, ce qu'il faudrait arriver à concevoir, je disais, c'est un système... Mais vous voyez, un peu comme si on faisait une fosse de graisse que l'on enroule autour. Parce que c'est sûr que si on met fin de graisse, une épaisseur de fourmi, les autres passent par-dessus. Alors que là, si on faisait, vous savez, comme autour des châteaux forts, quoi, mais en vertical.
Mais profonde en plus.
Non, mais de toute façon, on a bien compris qu'avec les fourmis, soit on prenait les armes, vraiment.
Sincèrement, c'est très intelligent. Enfin,
c'est très intelligent. C'est très inquiétant, hein, parce que vraiment, on a le sentiment de ne pas gagner cette guerre, quoi, clairement. Hein,
la chance qu'elle soit toute petite. Hein.
Si elles étaient...
La chance qu'on a, c'est qu'elle soit toute petite, parce que si elles faisaient notre gabarit, on serait leur esclave.
Il y a des chances.
L'année dernière, j'étais obligée de sacrifier tout mon jardin à cause des fourmis, donc je me suis mis tannée. Carrément.
C'est énervant, ça.
Et un jardin de 300 mètres carrés. J'ai tout arraché, et puis rien à faire. Il y avait des galeries. Carrément, sur 20-30 mètres de long, des galeries de fourmis en dessous.
Alors, Gilles, pour répéter bêtement, hein, un conseil donné par des spécialistes à nos micros dans un magazine que vous connaissez peut-être, Sabiens, il faudrait s'intéresser à ces galeries à la saison froide, en fait, lorsqu'on ne les voit pas, lorsqu'elles ne nous importunent plus, pour mettre à jour ces nids et les épuiser à reconstruire avant la saison plus chaude, maintenant, où elles sortent et elles sont bombesques, elles sont ragaillardies, en fait, par un hiver. Il faudrait essayer de mettre à jour ces galeries pour qu'elles s'épuisent et qu'elles finissent par mourir, parce qu'effectivement, si on attend qu'elles soient vaillantes au printemps, c'est juste cuit, quoi.
Ouais, mais voilà. Pour ça, il vous faut une mini-pelle.
Alors, une mini-pelle, pas vraiment, parce qu'il ne faut pas le faire trop en profondeur, mais il faut localiser ces nids à la bonne saison et revenir les travailler à la saison froide pour tenter de les éparpiller et de les essouffler. Parce que sinon, elles sont tellement vaillantes, tellement combattantes et puis tellement altruistes, hein, puisqu'elles sont...
Ah oui, c'est vrai, c'est sont... vrai, surtout altruistes.
Mais c'est vrai, hein, elles sont vraiment capables pour le collectif de s'adapter, qu'elles nous déroutent. Hein, donc, effectivement, il faudrait avoir ça en tête, l'hiver.
Tout à fait. Mais écoutez, on va s'attacher à leur faire la guerre.
Hein. Ouais, bon. Ouais, bah là on est bien parti. Ouais, bah c'est-à-dire que
il faudrait le chalumeau, mais ça marche plus. Bon, j'en tue des milliers, mais c'est comme s'ils en faisaient rien.
Après, il n'est pas nécessaire.
Oui, Liti.
Après, il n'est pas nécessaire d'employer vraiment les grands moyens. Vous prenez juste une griffe et dès que vous voyez des fourmis qui sortent quelque part, une griffe avec un manche, hop, vous remuez légèrement et vous allez voir que ça les énerve et elles bougent. Elles vont bouger parce que dès qu'on griffe, elles sont à quoi quelques centimètres en dessous du sol. On a de suite les œufs et autres. Et elles, leur objectif, c'est conserver leur espèce. Et donc, quand on met en danger leurs œufs, vite elles déménagent, elles vont ailleurs. Et en se promenant comme ça, c'est une solution. Après, je reconnais qu'il y a certains endroits. Moi, j'ai le jardin des parents d'une copine.
Je vous propose qu'on vous rappelle parce qu'on n'entend strictement rien. Je suis vraiment désolée, mais toute cette partie de réponse, elle est tellement hachée. On va tenter de faire mieux juste après une petite chanson et revenir sur ce sujet qui nous préoccupe tant des fourmis. Évidemment que si vous avez une solution miracle, sait-on jamais. Y a-t-il un magicien parmi vous? N'hésitez pas à nous la communiquer, on est preneurs.
Qui nous donne la tête.
C'est clair. Laetitia, coucou.
Coucou.
Alors, à propos de ces fourmis, on vous a coupé dans votre élan sur la deuxième partie de votre réponse. Vous nous disiez.
Je disais juste que effectivement, c'est que à l'usure qu'on va les avoir, les fourmis, et que il est facile de dire quand vous voyez des fourmis, vous grattez un peu avec une binette, avec une griffe. Mais je disais que dans le jardin des parents d'une copine, sur un pied, j'ai été impressionnée parce que là, on ne peut pas remuer tout le jardin et les fourmis se sont vraiment installées partout. Il est impossible de descendre dans le jardin en tongs.
Mon Dieu, ouais, oui, parce qu'en plus, quand elles se sont attaquées, elles vous piquent, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment un fléau.
On n'a pas encore tout le jardin envahi, vraiment cette solution, comme vous le disiez, de les déranger, de les perturber en griffant juste en surface, c'est une solution qui peut être efficace.
Et surtout, et surtout de le faire lorsqu'elles n'ont pas de réserve, voilà. De le faire quand elles vont vraiment s'épuiser, c'est-à-dire quand on les oublie, hélas, quand elles ne sont plus présentes, quand elles sont vraiment souterraines.
Et puis, il ne faut pas hésiter à associer différentes techniques. On griffe, on met de la terre de diatomée, on entoure les troncs avec de la graisse. C'est qu'avec un ensemble de petits moyens qu'on arrivera à bout, quoi.
Voilà pour ces conseils liés aux fourmis que l'on donne à Gilles, évidemment, qui souhaitait s'en débarrasser, mais aussi à toutes celles et ceux qui en ont assez de ces petites bêtes.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
C'est à vous, pardon, bonjour. Merci de votre patience.
Voilà, moi j'ai un petit souci, j'ai planté les clémentiniers là, il y en a un qui fait des petits points jaunes, jaunes, marron sur les feuilles. Et qui perd les feuilles. Je voulais savoir s'il n'y avait pas de quoi ça pourrait provenir.
Des points marrons sur les feuilles de clémentinier, j'ai rarement vu ça. Ça serait pas plutôt comme de la suie un petit peu ?
Des quoi, pardon ?
Comme de la suie ?
Non, c'est des points marrons.
Des points marrons ?
Des petites taches marrons sur les feuilles,
Plutôt des taches, oui, qu'un dépôt.
Alors, parfois, on voit des petites taches comme ça, et c'est lié à un manque de minéraux, d'oligo-éléments. Je sais pas vraiment marron, j'aurais dit plutôt jaunâtre, mais jaunâtre, un jaune pas franc, quoi. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est là, maintenant, de vraiment lui faire un bel apport de fumier, et ça pourra l'aider à se restimuler et à refaire des feuilles pour remplacer celles qui ont trop souffert. Après, sur l'ensemble de vos arbres, c'est vraiment la saison d'apporter du fumier pour les aider là au redémarrage.
D'accord. Et après, j'aurais une autre petite question. Alors, j'ai un citronnier, là. Il a à peu près 10 ans, un peu plus. Mais il est toujours chargé, mais il ne grandit jamais. Il ne fait même pas un mètre de haut et il ne grandit jamais.
Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas faire des fruits et grandir. Donc, quand on favorise les fruits, ben, on a moins de pousses. Parce qu'il y a toujours chez les arbres un équilibre entre la pousse végétative et la fructification. Donc voilà.
C'est un peu comme les enfants. Quand ils sortent les dents, ils ne parlent pas. Quand ils parlent, ils ne marchent pas. Enfin, ils décalent les. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression.
Voilà, c'est ça.
C'est petit à petit. Mais bon, ce n'est pas un signe de mauvaise santé, Laetitia.
Non, mais il faut vraiment lui aussi lui apporter de quoi se nourrir pour qu'il puisse assurer l'ensemble de son développement de manière harmonieuse. Parce qu'au bout d'un moment, ces charpentes ne grossissant pas, eh ben, il ne va plus être à même pas de charger et de produire énormément. Donc, apportez-lui de l'engrais, n'hésitez pas à le tailler, même s'il a des fruits ou des fleurs, pour stimuler sa croissance.
D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Merci. Excellente journée. Au revoir.
Bottes aux pieds et bêche à la main, on vous attend sur RCFM.
Une question via Messenger d'Anthony. Bonjour, je voudrais savoir quelle plante je pourrais mettre sur de la terre de remblai avec plein de pierres.
Eh ben, il faut qu'il prenne vraiment les plantes qui sont adaptées à nos climats. Donc, sur du remblai, il peut parfaitement mettre du romarin, du cit, du thym. On peut aussi tenter, mais le laurier rose. On peut mettre quoi d'autre ? Des dimorphothécas, s'ils préfèrent des petites plantes. En fait, il faut mettre des plantes méditerranéennes qui sont quand même habituées à des sols caillouteux et maigres.
Des immortelles ?
Voilà. L'immortelle, la lavande. Vous voyez toutes ces plantes qu'on trouve, le maquis, la garrigue, les terres un peu ingrates.
Voilà pour Anthony. Une question de Rosemary à présent. À propos, Rosemary, d'une glycine qui ne fleurit pas. Bonjour.
Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je vous appelle parce que j'ai deux pieds de glycine. Alors, il y en a un que j'ai récupéré chez une personne qui s'en débarrassait. Ça fait déjà au moins 4 ans. Il n'a toujours pas de fleurs. Mm-hmm. Alors que chez elle, il fleurissait énormément. On l'a taillé pour le replanter, hein. Et donc toujours pas de fleurs. Et j'ai un autre pied que j'ai acheté en jardinière l'année dernière et qui ne fleurit pas non plus. Alors voilà. Est-ce que vous avez une explication ?
Ah. Non, aucune. La glycine, c'est quand même quelque chose de très rustique. Et des glycines qui fleurissent pas au bout de 4 ans. À moins qu'elles soient vraiment dans un sol qui soit très lourd, où elles n'arrivent pas à installer leurs racines, est-ce qu'elles se sont développées quand même ? Est-ce qu'elles ont fait des feuilles, des tiges ?
Des fleurs, oui. Des feuilles, oui. Des tiges, bon, c'est vrai que c'est pas... Chez moi, la question sol, c'est pas l'idéal. C'est plutôt du tuf.
Parce que la glycine, en 4 ans, normalement, elle devrait avoir pris des proportions énormes. Hein.
Ah oui, c'est pas le cas.
Parce qu'en fait, elle est pas bien, elle est pas dans un bon sol. Parce que la glycine, c'est quelque chose qui est très envahissant. Si on la taille pas chaque année, on se fait déborder. Et donc, si elle se développe pas en hauteur, c'est qu'elle arrive pas à s'installer dans le sol. Donc, d'après moi, vous devriez essayer déjà au moins de biner le pied, d'apporter. Vous l'avez planté directement dans votre terre ou vous avez fait un mélange du terreau?
Oh non, je l'avais planté directement en terre parce que j'en ai une autre dans mon jardin que j'ai depuis plus de 30 ans qui est énorme, qu'on est obligé de tailler. Et donc là, j'aurais voulu la faire courir le long d'un mur parce que c'est tellement beau et ça parfume, enfin, etc. Je me disais, ce serait une bonne idée, mais finalement, là, je suis désespérée, ça ne donne rien.
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment biner le sol et essayer d'y apporter déjà du fumier, là, maintenant. Et après, tout au long de la saison, vous lui apportez du compost, etc. pour améliorer les propriétés de votre sol, lui permettre de vraiment bien s'installer. Après, si elle ne s'est pas du tout développée, vous pouvez aussi tenter, alors là, on est un peu limite, mais de la ressortir, de faire un grand trou et de remplir ce trou avec un mélange de votre terre et de terreau ou de compost pour qu'elle soit dans de bonnes conditions au départ pour le redémarrage des racines.
Ok. Là, pour cette année, c'est déjà trop tard, non, peut-être.
Vous êtes limite, mais bon, de toute manière, si elle végète, tenter. Hein.
Oui. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Merci à vous de votre appel. Au revoir.
À très bientôt, je vous donnerai des nouvelles.
Volontiers, oui, Rosemary. Volontiers. Avec plaisir.
De 9h à 10h sur RCFM, c'est le moment de jardiner.
Avec Paul à Sarre-la-Carcopine. Bonjour Paul.
Bonjour les reines de la bouillie bordelaise.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, je vais juste vous donner un petit truc pour tous les auditeurs, pour les fourmis, parce que ça nous damne tout ça depuis des années. Donc, enlevez toutes les pierres, et surtout les pas japonais, les pierres plates, tout ça, enlevez.
C'est là qu'elles font, c'est là qu'elles prospèrent. Eh oui. Souvent, elles courent dans les murets, hein, tout à fait.
Hein. Oui. C'est sûr. J'en ai un petit peu moins là. Depuis que j'ai enlevé tout ça, j'en ai un petit peu moins.
Ah, mais c'est sûr que dans les sols recouverts d'herbes, bien enherbés ou bien de l'humidité, de la fraîcheur, on a moins de fourmis. Mais bon, on peut pas défaire tous nos murets en pierre non plus dans les jardins.
Non. Je parlais des pierres à porter. Vous voyez, moi, j'avais des pierres de branche pour faire un petit pas, des petites pierres de bordure. Vous voyez, ce genre de choses, j'ai tout enlevé et elles ont été bien dérangées déjà.
Eh oui.
Et puis, voilà, il y avait des milliers de dessous, hein, quand même.
Dis donc.
Ah oui, ça, on en a. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on découvre des milliers d'œufs et vous revenez un quart d'heure après, il n'y a plus rien. Elles ont tout transporté.
Oui. Voilà, c'était ma petite contribution.
Eh ben, merci infiniment, merci. Paul. C'est pas de refus. Tous les conseils sont bons à prendre.
Et la lutte continue.
Merci.
Allez, merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Jocelyne se demande si c'est la bonne période pour planter un petit sapin en pot.
Alors oui, c'est la bonne période, on est limite, parce que là, si elle l'avait planté il y a une semaine ou 15 jours, il y aurait eu les petites pluies. Et par contre, sur les plantes que l'on met maintenant en sol, c'est les seules pour qui je dis, on fait quand même des petits apports d'eau.
Et oui, voilà. Parce qu'il faut quand même les aider, les pauvres.
il faut vraiment les aider, parce que sinon, l'an prochain, on est bon pour refaire les plantations.
Oui. Donc, effectivement, si on vient de faire un apport ou si on vient de planter, on met un petit coup de fouet à nos végétaux, de sorte à ce qu'ils survivent. Mm-hmm. Et puis, c'est à peu près tout. Sinon, on laisse les racines des autres plonger au plus profond des sols pour pouvoir se ravitailler en autonomie.
Les reines de la bouillie bordelaise vous attendent de 9h à 10h sur RCFM.
Direction Corot, où l'on retrouve Simon. Bonjour.
Bonjour à toutes les deux et à toute l'équipe.
Je
vous rappelle, concernant le rejet de mon pommier, que je vous avais posé une question récemment, pour savoir s'il devait être productif, vous m'aviez dit qu'il fallait envisager une greffe. Et là, j'ai eu la surprise de voir que ce rejet, il doit faire maintenant 1m50 de haut. Il pousse juste à côté donc du gros pommier, le vieux pommier qui va sûrement mourir un de ces quatre. Et il y a des fleurs sur ce rejet. Est-ce que ça veut dire qu'il va devenir productif ou est-ce qu'il faut continuer à envisager la greffe?
Fleurs que le vieux pommier?
Oui, rose et blanche.
Les mêmes.
Ouais, enfin les mêmes, j'ai pas regardé au microscope, mais de comme ça en regardant.
De prime abord, d'aspect.
Mais peut-être que votre vieux pommier était un pommier franc de pied, donc si c'était ça, s'il n'était pas greffé, ça va donner les mêmes pommes que ce que vous aviez avant.
De toute façon, Laetitia, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on risque quelque chose à goûter le premier fruit et éventuellement à greffer a posteriori, à part perdre un petit peu de temps?
absolument rien. Et puis, je vais même vous dire mieux, moi, à l'époque, hein, quand j'ai commencé à travailler, on avait un verger de pommiers qui était productif, mais la variété n'était pas intéressante. Mais comme le verger, il n'était pas bien vieux, on l'a tout ratiboisé, on l'a surgreffé. C'est des arbres qui avaient déjà 5-6 ans hein, ouais. qu'on a surgreffé. Donc, aucun risque de le laisser comme ça. On voit, on prend un an, deux ans, et puis si les pommes, elles nous conviennent, eh ben, on reste comme ça. Si elles ne nous conviennent pas...
On aura toujours la possibilité de greffer, bien sûr.
Voilà.
Et sur le principe, le fait qu'un arbre produise des fleurs, est-ce que ça signifie qu'automatiquement, il va y avoir un fruit après?
Alors, s'il y a une bonne pollinisation, si tout va bien, une fleur égale un fruit, effectivement.
D'accord.
Mais après,
c'est pas forcément égal au même fruit, effectivement, que l'autre plant.
Quand vous prenez un verger de pommier, des vergers de pommier, tous, ils ont à peu près les mêmes fleurs. Mais un coup, vous avez des granits, et un coup, de pommes vertes très acides, et puis un coup, vous allez avoir, des bonnes pommes, comme des galas ou autres, voilà. Après, c'est quel fruit et dans quelles conditions on va les avoir.
Bon, il faut attendre, il faut patienter, quoi.
Ouais, j'ai l'impression.
Le jardin, c'est une affaire de patience, hein.
Vite fait, pour finir, une fois que la floraison est passée, le premier soin à faire, c'est quoi?
Ben là, vous pourriez déjà mettre en place le piège contre le carpocap.
Oui, c'est fait. Mon niveau pulvérisation, soufre, bouillie bordelaise.
Vous pouvez faire une bouillie bordelaise pour éviter un peu de tavelure, s'il y a un peu des pluies et de la chaleur. Après, il n'y a pas de... Moi, j'ai tendance à dire que tant qu'on n'a rien, on ne bouge pas. Voilà.
Bon, d'accord.
Là, on met les pièces pour le carpocap. En fait, j'ai plutôt tendance dans les jardins amateurs à lutter un petit peu contre les ravageurs, tout ce qui peut grignoter mes fruits, faire perdre ma récolte. Mais après, par exemple, si j'ai de la tavelure ou de l'oïdium, mon fruit va peut-être avoir des petites croûtes noires, c'est la tavelure.
Mais il sera comestible.
Il est quand même bon à consommer, donc... voilà. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit traitement au cuivre ou au soufre pour éviter ces maladies cryptogamiques.
Ok, d'accord. Je me dépêche de conclure pour laisser éventuellement la place à quelqu'un d'autre.
Merci, il n'y a pas de souci, pas d'urgence. Vous étiez le dernier. Merci, Simon. Le dernier au téléphone parce qu'il y a une toute dernière question pour vous via Messenger.
Vos questions à Laetitia Agostini de 9h à 10h sur RCFM.
Comme ça, on aura passé tout le monde et on sera content, Laetitia. Une question sur le compost. Comment réussir son compost à la maison? Ça, c'est une bonne question aussi.
Alors, on a combien 5 heures pour en parler?
Vous avez 2 heures pour rendre votre copie.
Alors, le compost à la maison, il faut vraiment respecter quelques règles. Et d'une, un compost, c'est toujours une surface minimale. On bien souvent, les communes, les communautés de communes ou autres distribuent des composteurs, le Civadec ou autre, et ils font à peu près un mètre de côté, un mètre par un mètre, et quasiment un mètre ou un mètre un peu plus de haut.
Allez, un gros mètre cube.
Voilà. Il faut savoir que si on fait un tout petit tas de compost, ça ne fonctionnera pas, vu qu'il y a différentes couches qui se forment. Ensuite, la deuxième règle, c'est de mettre au départ des végétaux secs et apporter de l'humide petit à petit. Il faut aussi respecter une certaine humidité. On ne peut pas mettre que les herbes de tonte parce que c'est trop humide. Mais on ne peut pas mettre non plus que les feuilles sèches que l'on ramasse au jardin. Donc, il faut vraiment avoir un équilibre et surtout ne jamais mettre de produits laitiers dedans, de produits carnés, les pelures de saucisson, les trucs comme ça, on ne le met pas du tout. On peut mettre des coquilles d'œufs. On peut mettre le marc du café, les haché de thé. Il faut mettre un petit peu de tout. Plus on aura un compost qui sera varié et mieux il se formera. Il faut empiler tout ça. Et après, il faut le laisser se faire. Il faut savoir qu'il faut au moins un an pour que le compost se fasse.
Bien. Eh bien, vous voyez que vous avez réussi à faire ça en 30 secondes. Merci, ma douce.
Et juste une dernière chose. Pourquoi c'est bien de le faire dans des composteurs? Parce que pour que la fermentation se fasse bien, il faut atteindre 80 degrés à l'intérieur du tas de compost.
Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir fréquemment ou ça, ce n'est pas trop grave?
Quand on ouvre sur le dessus pour,
abonder,
abonder, il n'y a pas de souci. On peut aussi ponctuellement, tous les 2 mois, 3 mois, avec une fourche, un peu
tourner,
mélanger le compost, mais légèrement. Voilà.
On ne le laisse jamais ouvert, en revanche.
Ah non, parce qu'en plus, s'il pleut, bon, hélas, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent chez nous, mais ça lessive tout. Et puis, il y a différents micro-organismes qui se développent en surface, au cours du compost, et chacun est adapté à un environnement spécifique. Et donc, s'il pleut, ça mélange tout le monde et notre compost, il doit repartir à zéro, refaire son équilibre.
Bien, et puis ça libère tous les petits insectes, et ça, c'est dommage.
Voilà.
Laetitia, merci beaucoup pour votre intervention, et à bientôt, samedi prochain, 9h.